Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On prévoyait beaucoup de pluie aujourd'hui, finalement, ça a été nuageux avec quelques éclaircies, donc on a été gâtés. On a passé une belle journée, on va certainement passer une excellente soirée qui débute avec mon invité de ce soir, Jean Baillargeon, que vous avez entendu sur les ondes de Boulevard il y a de ça quelques jours et qui a été très apprécié par les auditeurs. Merci beaucoup en passant, je vous le dis assez souvent, c'est important de vous le dire, quand vous appréciez des intervenants en ondes, puis en plus vous me donnez du feedback là-dessus, ben moi ça me donne des idées pour ce qui est des prochaines émissions. Et dans Mars au soir, vous le savez, on reçoit des gens pendant plus de 50 minutes, vous direz entre 50 et 60 minutes. Et ce soir, c'est le cas de Jean Baillargeon, qui est expert conseil en communication et développement stratégique. Monsieur Baillargeon, bonsoir.
Bonsoir.
C'est quoi un expert conseil en communication et développement stratégique?
Alors, c'est quelqu'un qui fait de la gestion de réputation, gestion de crise, gestion de marque. Donc, moi, je fais des plans de communication stratégique.
Ouais.
Donc, je rencontre mes clients, OK, qui ont des problèmes ou qui ne veulent pas avoir de problèmes, OK? Et ils m'expliquent leur situation. Je fais une analyse de leur cas spécifique et puis je leur propose un plan pour se faire valoir, si on veut. Si on parle de gestion de réputation, comme vous le savez, actuellement, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'entreprises, ouais, ou de gens qui sont souvent attaqués directement ou indirectement, on attaque leur réputation. Donc, il faut savoir comment répondre, quoi dire, quoi pas dire. Alors, ce qui fait que moi, là, j'ai des clients l'année pour ça. Et chaque matin, à 5 heures, je fais ma revue de presse. Je vois les enjeux qui sont quotidiens. Mm-hmm. Et là, lorsque j'ai des clients qui sont concernés, je leur fais des recommandations, quoi dire, quoi pas dire, ou ne pas rien dire, peu importe.
Moi, j'ai toujours adoré votre domaine, M. Baillargeon, puis on va parler aussi de votre carrière en politique, parce que vous avez accompagné de grands hommes et des femmes extrêmement intéressantes en politique, puis je veux en savoir plus sur vos rencontres avec ces gens-là, mais votre métier me passionne, et ça a commencé avec... on a eu des scandales à Québec même, là, l'opération Scorpion. Là, bon, il y avait des clients qui étaient quand même très connus, qui s'étaient fait prendre, dont certains qui avaient des grosses entreprises. Ça doit être épouvantable pour des dirigeants d'entreprise que d'apprendre qu'un de nos directeurs généraux a été impliqué dans une affaire comme ça. Bien, dans ce temps-là, quand une entreprise se rend compte que les prochaines minutes, les prochaines heures et les prochains jours seront peut-être difficiles parce que les médias vont faire le pied de grue devant leur entreprise, bien, c'est des gens comme vous qui appellent en renfort.
Exactement. C'est ce qu'on appelle la gestion de crise.
C'est ça.
Là, on est vraiment...
Mais ça doit être passionnant, ça, pareil.
Oui, c'est passionnant. Écoutez, c'est stressant aussi, là. OK, faut toujours prendre un recul. Hein. Moi, je prends un recul. Je suis pas lié émotivement dans les cas que vous devez citer, par exemple.
Ouais.
Donc là, évidemment, je fais appel à leur intelligence émotionnelle. Souvent, malheureusement, ils sont conseillés, je m'excuse en partant, par les avocats, OK, qui leur disent de ne rien dire, de ne rien faire. Mais en communication, si vous ne réagissez pas en dedans de 48 heures, vous êtes coupable.
Ouais, exactement.
Alors, donc, il faut absolument établir un plan rapidement, OK? Ça ne donne rien de faire des mises en demeure. C'est votre réputation qui est en jeu. Et le beau côté de la chose, comme on dit souvent, on fait du judo en communication stratégique, vous avez tous les médias qui sont sur votre entreprise ou votre personne et profitez de l'occasion pour justement vous faire valoir. Donc, à ce moment-là, il y a toujours des bons côtés à votre entreprise ou votre cheminement personnel. Si on parle des présidents d'entreprise, par exemple, qui sont souvent attaqués. Donc, là, à ce moment-là, moi, je leur conseille de profiter de cette occasion-là. C'est de la publicité gratuite, comme oui, on dit. Donc, pour se faire valoir. Donc, à ce moment-là, on renverse la situation. Évidemment, il faut éviter les attaques personnelles parce que souvent, là, on embarque dans des poursuites. Ça, c'est important. Et évaluer aussi le fait de ne pas créer, disons, un momentum qui ferait en sorte que tout le monde va réagir pour réagir. Puis là, ben, maintenant, on s'en va vers une situation sans fin.
Qui est incontrôlable.
Il faut avoir un plan où on dit, bien, maintenant, rendu à un certain point, on a dit ce qu'on avait à dire, puis on arrête là.
Ouais. J'ai déjà rencontré des vieux sages comme vous là, qui me parlaient de leur travail. Puis comme je vous le dis, moi, c'est le genre de choses qui me passionnent. Puis ce que ces gens-là me mentionnaient, puis vous me l'avez dit au départ, vous m'avez donné les mêmes clés qu'eux, c'est que vous n'êtes pas impliqué émotivement dans l'entreprise. Donc, vous pouvez prendre d'excellentes décisions qui vont faire en sorte que ça va sortir votre client de l'embarras. Puis quand on est impliqué émotivement, quand c'est notre entreprise, on peut faire des maudites niaiseries, puis même laisser parler notre cœur avant notre tête, ce qui fait en sorte que des fois, ça peut sortir de travers devant les journalistes. Ça, à ne jamais faire. Travailler pour des stations de radio, dont une qui a brassé pas pire dans les dernières années puis qui était constamment menacée de fermeture. Puis à chaque fois, ce que je voyais, c'est que je voyais des employés qui étaient très craintifs de perdre leur emploi, très stressés par rapport à ce qui se passait et tout ça. Puis il y avait un gars qui était dans l'entreprise, qui était là depuis le début de l'entreprise, qui était impliqué émotivement, mais qui avait traversé plusieurs tempêtes, qui nous disait tout le temps... Les gars, les filles, c'est une tempête qu'on affronte actuellement. Ce qu'il faut faire, c'est descendre la voile, puis laisser le bateau aller, puis d'essayer de contrôler le plus possible où est-ce que notre bateau s'en va, mais il faut atteindre nos objectifs quand même. Puis il nous rassurait, tu sais, comme il avait vécu plusieurs tempêtes, comme j'imagine dans votre travail, vous en avez vécu plusieurs, bien, il nous disait les bonnes choses à faire. Oui, c'est stressant. Oui, on va avoir 2 jours ou 3 jours d'incertitude, peut-être même 1 semaine. Mais après ça, le soleil va revenir. C'est important d'avoir des gens comme vous, bien, des gens comme cette personne-là, pour nous rassurer quand on est trop impliqué émotivement, parce que là, on se dit, comment je vais faire pour nourrir mes enfants, tu sais?
Tout à fait, et il faut éviter de faire des erreurs. Alors, ça, c'est important aussi, là, parce que souvent, quand on est en gestion de crise, si vous rajoutez une crise par-dessus la crise, là, c'est sans fin, là. Maintenant, vous savez, la vengeance, maintenant, ça finit plus. C'est perdant-perdant. Alors, à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut prendre un recul. Si les gens ne sont pas capables de s'exprimer, alors souvent, ils engagent des gens, des porte-paroles, OK, pour parler en leur nom. Ouais. Ça aussi, ça se fait régulièrement parce que c'est pas tout le monde qui est capable de s'exprimer publiquement, que ce soit verbalement ou par écrit, là... Disons que c'est pas dit à tout le monde.
Ouais. Ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il faut être le plus clair possible avec le moins de mots possible.
Exactement. Ce qu'on appelle des mots-clés et des phrases-clés. Alors, vous avez un message à faire passer, pas 10 messages. Et il faut le répéter pour qu'il passe. Alors ça, c'est la répétition du message sur différentes façons, mais on revient toujours au message principal. Alors, c'est ça. Il y a des techniques, évidemment. Je fais des formations aussi de porte-parole, là, OK? Donc, à partir de ce moment-là, on fait des mises en scène où on pratique aussi, on simule des questions, là, OK, de journalistes, justement, là, pour faire en sorte que les gens soient préparés à des questions imprévues, là.
Ouais. Ça, ces expertises-là, vous les avez développées en travaillant avec des politiciens?
Bien, exactement. Bien, moi, quand j'ai commencé, moi, j'ai étudié en sciences politiques, OK? Donc, j'ai fait de mon bac à Laval, puis j'ai ma maîtrise à l'Université de Montréal, que j'ai pas terminée. Mais moi, j'étais impliqué dans le mouvement étudiant. Moi, j'ai reconstruit le mouvement étudiant après qu'il a été dissous dans les années 60. Il y avait l'Union générale des étudiants du Québec qui a été dissous en 68. Moi, j'ai recréé ce qu'ils appellent l'Association nationale des étudiants du Québec. Il y a eu des grèves de prêts et bourses à l'époque. Les prêts et bourses prenaient des retards.
Ouais.
Donc, on a les manifs que vous voyez à McGill, là, aujourd'hui, c'est rien à comparer à nous autres. Nous autres, on occupait les cégeps, les universités pendant 2 mois, là.
Est-ce que vous dormiez dehors et tout, là?
Non, on occupait les résidences.
En dedans.
Alors, et c'est là mon anecdote que je vous disais, là, le chef créditiste Camille Sanson disait « Il y a trop de chèques dans les cégeps. »
Si ça continue comme ça!
Alors, tu sais, nous autres, on occupait la résidence. Moi, j'étais au cégep de Sherbrooke.
Ouais.
La résidence du cégep de Sherbrooke, fait que je peux vous dire que...
Fait que ça avait brassé. Mais ça, c'est important d'avoir du recul. Puis c'est important d'avoir des gens comme vous qui en ont vu des affaires. Parce que moi, je vois ce qui se passe à McGill. Bien honnêtement, si j'étais le maire de cette ville-là, ou encore si j'étais, je sais pas moi, le recteur de l'Université de McGill, c'est policier, ramassez ça, merci, bonsoir. Mais ça peut envenimer les choses. C'est pour ça que ça prend des gens comme vous en disant « Regardez, ça s'est fait dans les années 70, ça s'est fait dans les années 80. Voici les bons coups qu'on a faits, voici les mauvais coups qu'on a faits. » Puis les mauvais coups, on essaie de les éviter le plus possible. On ne veut pas qu'il y ait comme une montée de l'agressivité ou encore même de la violence, là.
Bien, souvent, dans les occupations comme ça, il y a toujours une frange radicale.
Alors, oui.
Et là, évidemment, tout ce qui se passe actuellement, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui surveillent qui sont les leaders, là, parce que la chose à faire dans ces manifestations-là, c'est d'identifier les leaders. Alors, à partir de ces autres qui vont mener, qui vont dire on s'en va à droite, on s'en va à gauche, peu importe, là. Et voir aussi s'ils ont un agenda caché, parce que souvent, ils proviennent eux-mêmes de groupes, OK? Et ils peuvent manipuler les idéalistes qui sont sur place, là, qui disent, bien, nous autres, on veut, par exemple, s'occuper des Palestiniens qui souffrent à Gaza, hein? Il y a eu 35 000 morts.
Oui.
Mais ceux qui parlent, là, ils disent, nous autres, on ne veut plus que l'Université McGill investisse dans l'armement aux États-Unis.
Ouais.
C'est quoi le rapport?
C'est
là?
Pas la même chose.
On parle pas de la même affaire.
Ils sont dans la même gang, mais ils ont plusieurs causes.
Là, ils ont pas. Puis là, on ne veut plus que l'Université McGill fasse affaire avec des universités israéliennes. Mais c'est pas c'est quoi le message? Fait que là, vous voyez un peu,
ouais,
là,
okay,
qu'il y a une manipulation du message. Parce que c'est sûr que l'Université de McGill, qui a un fonds souverain, comme vous savez, de plusieurs milliards, et probablement, puis vous connaissez, il y a la communauté juive à Montréal qui est très riche, donc ils ont sûrement investi dans McGill. McGill a investi dans des entreprises aussi, bon, peut-être de l'armement, là, aux États-Unis. Donc, à partir de ce moment-là, ils reculeront pas là-dessus parce qu'il y a une petite manifestation, là, OK, vous comprenez. Alors, puis ils peuvent pas briser les liens avec Israël, c'est évident.
Ouais. Mais vous, vous le faisiez dans le temps, vous faisiez partie de ces manifestations-là avec le regroupement étudiant.
Oui, moi, j'ai été leader étudiant, je m'en cache pas. J'ai fondé l'ANEC, après ça, j'ai fondé le regroupement des associations étudiantes universitaires, donc j'ai été président de tout ça. Et j'ai été président de l'association étudiante à l'Université Laval aussi, quand même. On organisait des manifs, il y en avait, là, OK? Des occupations. Mais j'avais toujours une frange radicale. À l'époque, moi, c'était les marxistes-léninistes, les groupes maoïstes.
Ben.
Des groupes
ben.
Maoïstes, oui. C'était à la mode dans ce temps-là.
Alors, les communistes!
Oui, c'était des communistes, il faut dire, un peu bourgeois, mais c'était à la mode, là, OK? Il y avait des groupes qui noyautaient les centrales syndicales.
Il y a quelqu'un qui avait déjà dit être communiste à 20 ans, c'est correct, mais à 40 ans, c'est anormal.
Oui, mais ils sont tous virés capitalistes.
Ben
ils les ont revus après. Il y en a même qui ont parti des entreprises. Mais vous voyez, même Pierre-Carl Péladeau, OK?
Il a changé la première lettre de son nom, Karl, pour Karl Marx,
qui était,
avec le K.
Qui était à l'UQAM.
Ouais.
Il avait les cheveux longs jusqu'aux épaules.
Ouais.
Puis il a été dans les groupuscules marxistes.
Son père est un... Mais c'est la raison...
C'est pour créer une réaction.
Parce qu'il est né Pierre-Carl avec un C pour le Karl. Puis
okay.
Comme il s'est intéressé à Karl Marx, ben il a changé le K pour Karl Marx. Karl Marx. Marx,
exactement.
Voilà.
Donc, c'est ça. Donc, vous voyez un peu. Donc,
C'était ça.
Tu sais, à l'époque, à mon époque, c'était l'UQAM, justement, qui était le terroir là, des groupuscules, là, tout accablé.
Et vous sortait-tu de là ou il vous laissait là tant que vous ne faisiez pas de troubles? Ça fonctionnait comment, la police?
Bien, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, moi, je ne faisais pas partie de la frange radicale. Moi, au contraire, moi, j'étais un gars vraiment... pro-association étudiante de démocratie. Tu sais, on faisait des référendums, des assemblées, puis il fallait que ça soit représentatif.
Donc, vous étiez un communiste démocratique.
Je n'étais pas un communiste, moi.
Non,
non. Non. À l'époque, j'étais social-démocrate, qu'on
okay,
dit.
Voilà.
Un péquiste,
oui.
Là, OK, social-démocrate.
Un péquiste, oui.
Donc, et à ce moment-là, moi, j'ai été, imaginez, j'ai fait une innovation au niveau mondial. Le Québec a adopté la première loi pour la reconnaissance et le financement des associations étudiantes, selon la même formule REN que les syndicats, c'est-à-dire que vous, si vous avez été à l'université au cégep, vous avez payé une cotisation à la source.
Oui.
Mais c'était à cause de moi.
Ah ben!
La loi 32 qui a été passée en 1982, OK? Puis comment j'ai réussi ça? Bien, c'est qu'en 82, le gouvernement... du Québec a coupé les salaires de 20 % okay, des employés de l'État, dont les employés de 20 % aussi les cégeps et les universités. Et au lieu de couper les salaires des profs, bien, les universités et les cégeps ils ont dit « on va couper les services aux étudiants. Okay, on va couper tous les services. »
Donc, pour vous, c'était inacceptable.
Alors, moi, j'ai dit « ça n'a pas de bon sens ». Fait que là, j'ai négocié avec... Parce que moi, j'avais été déjà, comme je vous l'ai dit, dans un cabinet politique dans les années précédentes avec Jacques Parizeau. Donc, je connaissais Camille Lorrain, le ministre de l'Éducation de l'époque. Là, j'ai fait une négociation avec lui. J'ai dit « écoute, on va dénoncer le corporatisme des syndicats de profs et d'universités et la mauvaise gestion des universités et des cégeps En retour, tu me donnes une loi. Je les ai dénoncés en commission parlementaire.
Vous aviez quel âge à l'époque?
Ouais, j'étais dans la vingtaine, là. Ouais, 20,
c'est fonceur.
24-25. Ouais, pas mal. Mais après ça, quand j'ai fini au gouvernement, j'ai appliqué dans les cégeps et les universités pour les services aux étudiants, ouais, pour enseigner. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai envoyé 250 demandes, il y a quelqu'un qui m'a dit, Jean, applique pas là, t'es barré à vie plus 100 ans. Tout le monde t'en veut, OK, bien les recteurs et les DG de cégep, bien sûr, et les syndicats, évidemment, fait que pas grave.
Fait que c'est vous qui avez mis ça en place.
Oui, la loi, c'est moi. Que, donc, puis c'est pourquoi j'ai mis ça en place? Parce que les groupuscules d'extrême-gauche ne voulaient pas de loi, eux autres, ils étaient contre. Parce que ça imposait un quorum. Vous savez, il y a des quorums démocratiques. Puis je voulais dans la loi, justement, quand il y a eu les manifs étudiants là, pour l'augmentation des frais de scolarité, vous vous souvenez, il y a eu des contestations, des votes de grève dans les assemblées générales. Il y en avait qui disaient, hey, il y en a un qui sont allés devant les tribunaux pour dire c'est pas représentatif. Puis on n'avait pas réussi. On a réussi à imposer un quorum pour créer l'association étudiante, mais pas pour les assemblées générales dans la loi. Alors, donc, c'était souvent les plus militants, évidemment, qui votent. C'est ceux qui ne sont pas militants, ils n'assistent pas aux réunions de toute façon. Fait que ça a été une faille. J'aurais voulu avoir une loi plus forte pour empêcher les groupuscules, justement, de noyauter. Donc, quand il y a une grève, il aurait fallu soit qu'il y ait un référendum, tu sais, tu fais un référendum. Si la majorité des étudiants inscrits disent oui, ben qu'est-ce que vous voulez?
Allons-y.
C'est démocratique. Mais là, c'est pas comme ça que ça se passe.
Ça faisait pas leur affaire.
Non, les groupuscules d'extrême-gauche, ils m'en ont toujours voulu.
Ils appellent ça c'est la domination de la majorité, quelque chose du genre?
Oui, c'est ça. Eux autres, là, c'est... Eux autres, là, à l'époque, en tout cas, ils se déclaraient l'avant-garde éclairée. Ils ont dit, nous autres, le peuple est ignorant, mais nous autres, on va faire ce qui est bon pour le peuple. Comprenez ce que je veux dire?
Okay. Mais on peut faire plein de parallèles avec aujourd'hui en politique. Là. Quand un politicien veut faire passer quelque chose, puis on se rend compte que sa population n'est vraiment pas de son bord, le politicien va dire, oui, mais c'est pas toujours la majorité qui a raison. Ça se peut que ce soit moi qui ai raison. Il dit pas ça comme ça tel quel, mais il va dire, c'est juste que ces gens-là manquent d'éducation. Ça s'est fait pour le référendum entre le oui et le non. Là. Les gens qui ont voté non, c'était tout du monde qui manquait d'éducation sur le sujet, à ce qu'on entend, du moins à l'époque. Moi, j'étais très jeune, vous comprendrez, mais pour le deuxième, d'ailleurs. Mais, tu sais, j'ai pas manqué d'éducation parce que j'aurais voté non. C'est juste que moi, me séparer du Canada, c'était pas intéressant à ce moment-là. Mais eux, leur carte, c'était « Ah, ben les gens qui votent non, c'est juste des gens qui sont pas éduqués. On va essayer de les faire changer, puis on aura un troisième à un moment donné. »
C'est-à-dire que c'est différent. Le premier et le deuxième, moi, j'ai participé, évidemment, à l'organisation des deux. Celui de 80, j'ai été responsable du mouvement étudiant pour le oui sur tous les campus, OK? Puis je travaillais pour Parizeau, c'était en secret, là. Personne n'était au courant de ça. C'était un peu comme Mission Impossible, là, OK? Donc, j'ai dirigé le MEOI en 1980. Et là, il faut dire des choses, c'est que le référendum a été organisé à la dernière minute parce que c'était à la fin des 4 ans du PQ, c'est sûr qu'ils avaient préféré faire des réformes. Mais c'est ça le paradoxe des péquistes, c'est que leur programme, ils réalisent qu'à 95 % dans le Canada. Comprenez toutes les réformes qu'ils ont faites, on a déjà parlé.
Ouais.
Et c'est très bonne réforme, mais ils font dans le Canada. Ils n'ont pas besoin de se séparer, vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la langue, puis il reste le pouvoir politique. C'est les deux seules affaires qui ne peuvent pas vraiment, à l'époque, là, en 1980. Et si vous regardez la question référendaire en 1980, c'était pas pour l'indépendance. Les gens ont pensé que c'était pour l'indépendance. Nous autres, mais oui, on était pour l'indépendance. On était jeunes, là, OK? C'était pour un mandat de négocier la souveraineté association. Donc, on mettait l'association avant la souveraineté. Si, autrement dit, si Louis avait passé, c'était pas l'indépendance. On négociait avec le Canada pour essayer de faire, justement, une entente, là, la libre circulation des marchandises, faire un contexte de libre-échange avec le Canada, négocier la dette, des choses comme ça. Puis après ça, il y aurait eu un deuxième référendum pour la vraie affaire, c'est-à-dire l'indépendance politique. Puis à l'époque, n'oubliez pas, là, aujourd'hui, on a changé le langage. À l'époque, c'était l'indépendance politique de l'État du Québec. C'était un État. C'était ouais. pas la nation québécoise.
Ouais.
Non, c'était un pays, mais les francophones de l'époque, eux autres, ils avaient pu progresser dans les années 70 au sein de l'État québécois. Il n'y avait pas beaucoup de francophones entrepreneurs là, dans le secteur privé. D'ailleurs, le secteur privé était mobilisé contre le oui. Donc, eux autres, là, c'était des professeurs, tu sais, c'était des fonctionnaires, bien sûr, OK? La plupart au PQ, c'était ça, là, OK? Donc, à partir de ce moment-là, eux autres, bien, ils voulaient renforcer l'État, ils travaillaient dans l'État. Puis le paradoxe, c'est qu'ils disaient, on va rapatrier tous les fonctionnaires fédéraux, parce qu'il y en a pas mal aussi au fédéral. Puis là, tout le monde se disait, oui, mais c'est quoi à ce moment-là? On sauve quoi, là, si on les rapatrie? On pensait avoir moins de dépenses ou, tu sais, rapatrier l'argent qu'on payait à Ottawa. Puis là, on rapatrie tous les fonctionnaires. On se dit, il va y avoir trop de fonctionnaires. Ça, ça crée un peu aussi de malaise. Donc, ça a été organisé à la dernière minute, mais il y a eu quand même 40 % du vote. Puis 40 % du vote veut dire, il faut toujours regarder ça à deux niveaux, 50 % des francophones. OK? Donc, c'était partagé sur les francophones, 50-50. Tandis qu'en 1995, encore là, c'était pas un vote sur l'indépendance. C'était un vote pour négocier un partenariat avec le Canada. Donc, les gens, ils n'ont jamais compris que c'était pas...
Bien, ça n'a jamais été médiatisé comme ça, du moins.
Non, mais c'est ça, mais... Puis c'est pour ça que le fédéral, un moment donné, a dit on va passer une loi pour clarifier la question. Parce que les deux questions étaient ambiguës. Je ne sais pas si vous comprenez.
Oh oui.
Donc, si tu veux faire... Là, on parle de ce que parle Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est l'indépendance politique. Moi, j'ai compris, là, c'est plus identitaire, de la nation québécoise. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien là, à mon avis, il devrait faire adopter une constitution du Québec, ce qui est possible dans le cadre fédéral, en passant, parce que la Colombie-Britannique a une constitution. À partir de ce moment-là, tu définis ta constitution. C'est quoi tu veux? Tu veux un État laïque, là, comme la loi 21 le dit? Parfait, tu le dis là, dans ta constitution. Puis quel les pouvoirs tu veux avoir? Veux-tu avoir l'immigration? Veux-tu avoir une armée, etc.? Peu importe. Là. Des pouvoirs souvent qui sont partagés ou exclusivement du fédéral. Veux-tu partager la monnaie? Tu sais, des choses de même. Donc là, tu mets ça dans ta constitution. Et après ça, tu peux faire un vote, là, je dis ça comme ça, là, moi, si j'étais stratégique, je ne parlerais pas de troisième référendum. Je dirais, on va adopter une constitution, OK, et on fait un vote sur la constitution. Là, c'est clair. Puis la constitution, tu dis oui ou non. Fait que là, c'est identitaire. Tu fais un vote si tu veux en faire un, mais tu fais un vote à l'Assemblée nationale pour commencer. Puis après ça, tu fais un vote à grandeur du Québec, tu sais. Bon, là, à partir de ce moment-là, t'es allé par étapes. Tandis qu'arrivé tout d'un coup, puis là, il y a trop de questions. Les gens disent, je vais-tu perdre ma pension de vieillesse? En 80, c'était la pension de vieillesse. N'oubliez pas, on disait, vous avez dit que les gens n'étaient pas instruits. C'est vrai que les personnes âgées, à l'époque, n'étaient pas vraiment instruits, mais tu sais, les autres disaient, on va perdre notre pension, ouais. Ça a marché, tu sais.
Mais les gens étaient instruits comme ils pouvaient être instruits, mais c'était pas négatif. C'est que j'ai l'impression, puis encore à ce jour, il y a des gens, exemple, chez Québec solidaire, qui vont regarder des gens comme moi, qui sont un peu de droite économique, mais normalement, je me situe au centre, sauf pour l'économie, où j'aimerais avoir un plus petit gouvernement, beaucoup moins d'impôts, puis je pense que moi, je suis capable de gérer mon argent. Puis si je veux te donner de l'argent, je le donnerai. T'sais. Mais moi, je suis au centre-droit. Mais il y a certaines catégories de personnes qui sont souvent aux extrêmes, extrême-droite ou extrême-gauche, qui se disent « ben l'autre camp est comme ça parce qu'ils ne comprennent pas tout, sont mal éduqués. Ouais. Moi, je sais ce qu'est la vérité. » Alors que moi, je pense que les extrêmes, la vérité n'est jamais là. La vérité est souvent bien au centre. T'sais. Donc, c'est pour ça que je disais ça. T'sais. Moi, je m'étais fait dire « ouais, mais si vous avez voté pour le oui, vous autres, vous avez compris. Si vous avez voté pour le non, ben vous êtes des pleutres, puis vous n'êtes pas assez éduqués sur le fait que le Québec pourrait devenir un pays. C'est comme ça qu'ils nous l'avaient vendu, le deuxième. Le premier, j'étais pas très vieux, vous comprendrez, mais le deuxième, c'est
mais
comme ça qu'ils nous
disaient. Encore là, tu sais, là, c'est sûr que dans un camp du oui ou du non, il y a des gens qui peuvent dire n'importe
ben
quoi.
Ouais,
là, OK, moi, je suis d'accord avec vous qu'il y a des gens qui sont un peu prétentieux ou qui se pensent au-dessus des gens, là, peu importe, là, OK. Ils sont dogmatiques. Il y a des gens dogmatiques. politique, autant fédéraliste que souverainiste, pour eux autres, c'est comme une religion. Là. C'est croix ou meurt. Tu n'as pas de nuance. Malheureusement, c'est ça qui arrive, c'est que dans ces débats-là, puis c'est souvent très émotif, bien sûr, tu devoir amener des arguments économiques. Exemple, bon, à l'époque, on disait on paye 50 milliards d'impôts à Ottawa. Là, maintenant, on en paye 80 milliards. Mais là, tu sais, oui, on en paye 80 milliards, mais qu'est-ce que tu veux? Là, il y a des dépenses aussi au fédéral. Si t'es rapatrié, bien évidemment, ça ne veut pas dire que tu auras des baisses d'impôts non plus, là, parce que tu vas fonctionner comme pays, tu sais. Toutes des choses qu'il faut aussi dire clairement. Mais les gens, le problème avec le Canada, c'est que c'est un bon pays, c'est un pays prospère, OK? Les gens ne sont pas dans la dèche, là, au Canada. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui émigrent ici. Là. Mais là, conjoncturellement, on vit vraiment une crise identitaire. À cause d'immigration, bien, vous savez, on a de la difficulté à franciser les nouveaux arrivants. Il y en a trop en même temps, OK? Ça crée une insécurité. C'est un peu pour ça aussi que le Parti québécois monte, là. On a beau dire, oui, on est, il y en a qui sont réfractaires à la coalition Avenir Québec, mais il y a une crise d'insécurité. D'ailleurs, le premier erreur du PQ dans son premier mandat avant de faire le référendum, c'est d'adopter la loi 101. Parce qu'avant la loi 101, les gens étaient très insécures au niveau de leur langue, OK? Parce que tout le monde voyait là que il y a eu des conflits, notamment avec les Italiens à Montréal qui envoyaient tous leurs enfants à l'école anglaise, OK? Il y a eu des émeutes là, à Montréal. C'était grave à l'époque. Fait que là, le monde voyait que tous les immigrants allaient à l'école anglaise, donc ça voulait dire qu'on perdait... c'était inévitable que le français se ferait noyer à plus ou moins long terme. L'anglais, c'est plus attirant, bien sûr, parce que, bon... Dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, il faut que tu parles anglais si tu veux faire des affaires, si tu veux voyager.
En fait, sur la terre, la langue
sur la
d'affaires,
terre.
À l'époque, c'était uniquement l'anglais. Là, maintenant,
oui,
il y a du chinois, il y a de l'espagnol et tout
aussi,
ça.
Aussi, mais tu sais, donc à partir de ce moment-là, l'erreur, l'insécurité... S'il n'y avait pas adopté la loi 101, je dis ça comme ça, il faut être stratégique des fois, ça aurait peut-être passé, le oui, OK?
Ah ouais.
Parce que les gens ont dit, bien là, si on veut contrôler la langue, le français... au Québec, qui soit prospère, il faut faire l'indépendance. Mais ils ont fait ça dans le cadre fédéral, même s'il y a eu des amendements en Cour suprême là, pour l'affichage et toutes ces affaires-là. Ça a fait en sorte que les gens ont été rassurés, vous comprenez? Donc, ça, c'est un paradoxe que le PQ n'a jamais reconnu, OK? Ces erreurs stratégiques, ces erreurs tactiques.
Jean Bergeon, expert conseil en communication et développement stratégique, vous avez rencontré des femmes et hommes en politique. Lesquelles vous ont le plus marqué pendant toute votre carrière?
Écoute, pour moi, le plus important, c'est Camille Lorrain. Je dois l'avouer, à cause de la loi que je vous ai dit, là, lui, il a vraiment fait progresser le milieu étudiant. Puis aussi, en plus, à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, étant donné que les professeurs qui participaient dans les syndicats de professeurs étaient libérés, ils appelaient ça des libérations syndicales.
Oui.
Il pouvait enseigner, mais il pouvait être libéré pour les tâches syndicales. Mais croyez-le ou non, Camille Lorrain a donné des bourses de libération syndicale aux étudiants qui participaient dans les associations étudiantes. Alors, puis moi, à l'époque aussi, j'avais créé ce que j'appelle les CESC, Centres étudiants de services communautaires, qui permettaient aux étudiants, dans le cadre de cours, de faire des stages pratiques. Puis j'aurais voulu amener ça à une sorte de service civil, tu sais, non obligatoire, là, OK? Parce que souvent, les étudiants, ils ont une expertise, mais dans beaucoup de domaines, ils n'ont pas de stage pratique. Et là aujourd'hui, d'ailleurs, ils demandent que les stages soient payés. Fait que Camille Lorrain, lui, il était ouvert à tout ça, là, OK?
Mais lui, c'est un homme qui avait énormément d'études. Il était psychiatre de formation.
Effectivement.
Il a jamais été premier ministre, mais il a été vice-premier ministre du Québec, M. Lorrain.
Je me souviens pas de ça, mais en tout cas, il a été ministre de l'Éducation.
Je me souviens de mes cours en sciences politiques. De mémoire,
OK,
il avait
parfait.
Été
si vous le savez.
Vice-premier ministre du Québec.
OK, bien, si.
Mais je vais vérifier là, pour être sûr et certain que je ne dis pas niaiserie. Des fois, je dis niaiserie.
Ministre d'Éducation. Il a été ministre aux Affaires culturelles.
Oui.
Là, OK. Ministre d'État aux Affaires culturelles. OK. Donc, il a fait aussi un projet d'école. L'école communautaire est responsable. Vous savez, aujourd'hui, on dit les parents, ils n'ont pas de pouvoir dans les écoles. Bien, lui, à l'époque, là, il avait fondé un projet où l'école était comme... dans le quartier, là, les parents avaient un mot à dire sur l'école du quartier.
Ouais.
Alors, donc, c'était un visionnaire, vraiment. Là.
Il a été effectivement vice-premier ministre okay. du Québec, mais pas longtemps. Huit mmh. mois et deux jours.
Ah, OK. Ça m'avait...
Mais ça me surprend que j'avais cette mémoire-là.
Ah, bien, félicitations.
Il était dans la circonscription de Bourget, lui. Oui. Puis, en tant que ministre des Affaires sociales, il était là, ouais. encore là, quelques mois.
Il n'a pas été là longtemps.
Huit mois, précisément. Puis, ministre de l'Éducation pendant trois ans et trois mois.
C'est ça.
Mais c'est un homme qui vous a marqué. Il était comment dans son quotidien, Camille Lorrain?
Bien, Camille Lorrain, c'est un gars, c'est un psychiatre, donc, qui écoute. C'est rare aujourd'hui hein, que vous preniez le temps d'écouter quelqu'un.
Ben moi, j'aimerais ça travailler à écouter le monde puis être chargé par la suite.
Il y a du monde, là. Lui, c'est un confesseur. Tout le monde se confessait à lui. Fait que, puis lui, bien évidemment, pas besoin de vous dire qu'avec la loi 101, il passait pour Hitler puis un nazi auprès des anglophones. Donc, ils l'ont vraiment...
Un sauveur auprès des Québécois, mais Hitler auprès des anglophones.
Ouais, fait que là, il a été patient. Il s'est pas laissé intimider. C'était un gars calme, OK? Donc, il y avait une force là, intérieure qui le distinguait.
C'était-tu quelqu'un qui avait une prestance?
Non, c'était un gars qui passait...
Ah ouais.
Inaperçu. Il ne parlait pas fort, hein? C'était une petite voix bien calme.
Parce qu'on va parler des autres, mais je veux dire, moi, quand j'ai croisé Parizeau, je l'ai croisé sur Des Braves. Il rentrait chez eux avec sa conjointe, puis là, je vois un véhicule noir arriver vers moi. Je marchais avec ma blonde de l'époque, Katia, puis on voit M. Parizeau descendre de sa voiture avec les gardes du corps qui me regardaient en disant « Qu'est-ce que tu fais là, toi? » Et juste en le voyant, il dégageait Restant. Quelque chose. Lucien Bouchard, c'était la même chose. J'ai jamais croisé le père de Justin Trudeau, mais j'imagine qu'il devait avoir une certaine prestance aussi. Camille Lorrain, il avait pas cette prestance-là. C'était un plus un gars qui était timide à ses affaires.
Pas timide, mais c'était pas un gars qui était...
Flamboyant.
Flamboyant, là, tu sais, mais... Chacun, tu sais, c'est drôle parce que, puis on parle de grandeur, là, parce que, évidemment, Parizeau, c'est quand même un géant, là, il est assez grand, OK. Camille Lorrain, il n'était pas si grand que ça. Puis René Lévesque, justement, il était tout petit, mais vous voyez, tu sais, je me souviens d'images, là, quand on accompagne un ministre, par exemple, dans un centre d'achat, c'est là qu'on voit l'aura, OK, qui dégage, OK. Donc, exemple, René Lévesque, les gens se garochaient sur lui. OK? Il est tout petit, puis maintenant, on le perdait de vue. Il y avait trop de monde autour de lui. Camille Lorrain, plus ou moins, je dirais oui aussi. Parizeau, pas tout le temps. Tu sais, il avait tellement de prestance que les gens, des fois, ils avaient peur un peu de s'approcher.
Il voulait garder une distance.
De lui, c'est ça l'affaire. Ouais.
Fait que... René Lévesque, lui, de mémoire, avait été correspondant de guerre, il avait été journaliste. Est-ce que les gens l'avaient... Les gens devaient certainement l'entendre à la radio. Est-ce qu'il était régulièrement à la radio? Est-ce que les gens le voyaient régulièrement à la télévision aussi?
Ben oui, parce que ce qui l'a fait connaître, c'est son émission Point de mire.
Oui.
Alors, vu qu'il a été un correspondant de guerre, OK... Il avait été aussi, je crois, à la guerre en Corée aussi après la Deuxième Guerre mondiale.
Il a fait quelques-uns, oui.
Alors, merci. Donc, lui, il a voyagé beaucoup. Puis lui, il expliquait, dans son émission Point de mire, il expliquait les enjeux mondiaux. Tu sais, les gens, là, le niveau international, ça, c'est vrai que la plupart des Québécois connaissaient pas ça, là, tu sais, qu'est-ce qui se passait à travers le monde.
Il était précurseur.
C'était un innovateur, un vulgarisateur. Appelons ça comme ça. Il parlait le langage du peuple. Il n'y avait pas des longues phrases, là, OK, très intellectuelles. Lui, là, il disait vraiment, il parlait avec son cœur, puis il disait les choses, il les nommait comme il les ressentait. Donc, si les gens étaient surpris de ça, qu'ils parlent leur langage. Puis c'est pour ça que souvent, les gens l'appelaient Tipoil, tu sais. Alors, tu dis, hey, Tipoil, il est là, tu sais. Parce que, bon, il avait les cheveux toujours en...
Mais les gens étaient plus familiers avec René Lévesque, peut-être en raison du fait qu'il l'avait écouté et qu'il l'avait regardé.
Il l'avait écouté,
télé.
Mais là aussi, lui, il a fait vraiment sa marque avec la nationalisation de l'électricité, là, en 1962. Ça, c'en est un référendum.
Ouais.
Les gens, évidemment, n'ont pas connu ça, mais ça jouait dur aussi, là. Puis n'oubliez pas, à l'époque, là, les caisses électorales, c'était financé par les grandes compagnies. Alors, il n'y avait pas de loi là, qui contrôlait les dépenses électorales. Alors, ça jouait dur. Là. Quand il a fait de la nationalisation d'électricité, les compagnies d'électricité ne voulaient pas. Puis ils ont investi beaucoup d'argent contre lui pour salir sa réputation, évidemment, puis tout ça. Là,
il voulait salir sa réputation.
Oui. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, là, jusqu'à ce qu'il y ait eu de la loi sur le financement populaire, là, que l'évêque, d'ailleurs, a faite dans le premier mandat, où là, il a limité à 3 000 $ par année. Imaginez, aujourd'hui, c'est 100 $ là, OK, par année que tu peux donner. Mais avant ça, c'était le bord ouvert, là, tout le monde, les caisses électorales. D'ailleurs, tout le monde se souvient, ben moi, je m'en souviens pas, mais du temps du Plessis, si tu voulais, il voulait gagner les élections, ben lui, il proposait des bouts de route, des bouts d'électricité, des frigidaires, tu sais. Puis ceux qui votaient pour lui, il y avait ça. T'sais, vous voyez, ça, c'était comme troqué, le vote. C'était ça, la démocratie, ouais, à l'époque.
On nous fait croire que ça ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui.
Ben, écoutez, il y a toujours des jeux d'influence. Il ne faut pas se le cacher, mais c'est plus compliqué.
Ouais.
Vous avez vu, il y a eu le scandale sous Jean Charest, là, OK, les firmes d'ingénieurs conseils là, s'en sont données à cœur joie.
La nomination des juges aussi.
Oui, c'est ouais, ça. Alors, donc, vous voyez un peu, là, puis il en ramassait des millions. Chaque ministre sous Jean Charest devait recueillir 100 000 $ par année. Ça en fait quand même des étiquettes.
Ça mettait une pression, mais c'est ça, les montants que les ministres pouvaient prendre par personne étaient très limités, ce qui faisait en sorte que 100 000, ça mettait toute une pression sur les ministres. Là.
Ouais.
Puis, des fois, ben, ils faisaient peut-être, moi j'ai rien pour appuyer mes dires, mais ils faisaient peut-être des promesses pour justement avoir ces montants d'argent-là qui étaient donnés par les individus ou encore par les entreprises. Mais pour revenir à René Lévesque, ce que vous me dites, c'était quelqu'un qui semblait être très humain.
Très humain, très intègre. Okay. René Lévesque, c'est quelqu'un d'intègre. T'sais, on ne peut pas y reprocher ça. D'ailleurs, ça a été ça, sa force. C'est un idéaliste. T'sais, faire la politique comme il a fait, là, ouvrir toutes, il a ouvert toutes les portes aux Québécois. Il ne faut pas se leurrer là, avec, comme j'ai dit, la nationalisation d'électricité, la création du Parti québécois. Ça a pris 3 élections avant qu'il se fasse élire. Il a perdu 2 élections dans 2 scrutins, en 70 et en 73. N'oubliez pas toute l'histoire du FLQ aussi, là, en 70. Ça a joué dur aussi parce qu'il y avait une frange radicale aussi au niveau des indépendantistes. Lui, il a réussi à se distancer de ça. À l'époque aussi, le Parti québécois, il y avait 300 000 membres. 300 000 membres. Imaginez les congrès.
Ça devait être l'enfer.
Alors là, c'est Québec solidaire, c'est rien, là, OK? Alors lui-même, là, quand il a décidé d'aller avec Brian Mulroney, le beau risque, en 84, à la fin de son deuxième mandat, il y a eu 11 ministres et députés, dont Jacques Parizeau et Camille Lorrain, qui ont démissionné. Et il a été battu en congrès, il est obligé de faire un renérendum au sein de son propre parti pour imposer cette vision-là de rapprochement avec le gouvernement fédéral. Donc, tu sais, il était lui-même critiqué. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois, actuellement, il est critiqué. Je ne dis pas que c'est René Lévesque, là, mais vous voyez un peu là, le genre de... Il a subi ça aussi,
cette pression-là. Il y a des jeux de coulisses à l'interne. Puis on comprend pourquoi aujourd'hui vous êtes capable de faire et d'exceller dans votre métier. Vous êtes expert conseil en communication et développement stratégique, M. Baillargeon. Est-ce que c'était quelqu'un qui était quand même accessible pour les gens qui travaillaient en politique, dans son cabinet et tout ça? Vous, est-ce que vous l'avez côtoyé régulièrement?
Bien, pas régulièrement. Moi, je m'occupais à l'éducation des dossiers jeunesse, là, si on veut. Puis lui, il s'occupait du dossier jeunesse comme premier ministre. Il y avait le dossier jeunesse. Moi, je m'occupais du parti jeunesse de l'éducation. Puis à un moment donné, bien, il a accepté de faire le sommet québécois de la jeunesse, notamment. Alors, à l'époque, il y avait un taux de chômage de 15 à 20 % chez les jeunes au Québec. Ça
15 à 20 %?
Oui. Oui. Écoute, quand on voit le chômage aujourd'hui, là, les gens ne croient pas ça.
On panique à 5.
Non, le chômage chez les jeunes, tu avais un bac universitaire et tu étais chômeur en partant. Il n'y avait pas de job, c'est ça. Même moi, en sciences politiques, le directeur, en nous accueillant en première année, il dit « Oubliez ça, vous n'aurez pas de job. » Parce que pour être en sciences politiques, il fallait que tu enseignes au cégep ou que tu sois fonctionnaire de l'État. Puis tout était fermé, déjà. Tous les postes occupés. Fait qu'ils disent « Même si vous faites une maîtrise, vous n'aurez pas de job. » Fait que là, c'était ça, là. T'sais, à l'époque, là, on était idéaliste aussi. Moi, j'ai été chanceux. En sortant de l'université, j'ai rentré dans un cabinet politique.
J'ai un médium qui a fait philo. Qui a regardé pour sa maîtrise en philo puis son doctorat en philo, puis il a regardé les opportunités d'emploi, Puis comme c'était pas le meilleur des étudiants, il a dit ben, « je pense que je vais aller faire administration finalement à l'Université Laval ». Fait qu'il a fait, il a fait deux bacs.
C'est ça.
Parce que la philo lui apportait pas la job peut-être qu'il voulait avoir en philosophie. Il se voyait pas comme professeur de philosophie. Fait que je veux dire, c'était... Tu sais, tout le monde qui rentre en philosophie sont très courageux, là. Ils en apprennent peut-être un peu plus sur l'être humain et ils développent peut-être un peu plus une partie de leur cerveau qu'ils n'auraient pas développé autrement. Mais il n'en demeure pas moins que les chances d'emploi dans ce métier-là sont très, très rares.
À moins de devenir entrepreneur. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont... Le père de Pierre-Carl Péladeau, il avait sa formation en philosophie.
Monsieur Péladeau, père, était...
Oui,
philosophe.
Alors, oui, il étudiait en philosophie. Et moi, par exemple, ben, justement, quand on a perdu le pouvoir en 85, il n'y avait pas d'emploi, ben, je suis parti à mon compte. Ça fait 40 ans que je suis consultant. Fait que vous voyez, là, c'est une question de tempérament aussi. C'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur, travailler à son compte. Mais j'ai jamais regretté parce que moi, travailler justement là, de 9 à 5 sous les ordres, d'avoir des boss et tout ça, c'était pas mon style. Fait que vous voyez, là, donc peu importe ce que vous choisissez, là, l'important comme formation, c'est d'être passionné.
Ouais.
Si vous êtes passionné et vous êtes compétent, vous allez trouver votre voie avec les compétences que vous développez, bien sûr.
Il y a des différences de génération en génération. Moi, les gens qui se sont occupés de moi quand j'étais petit, c'était des gens qui étaient beaucoup plus vieux, qui m'ont élevé d'une façon à travail, ça va t'apporter une sécurité financière, puis après ça, le stress va s'en aller. J'ai toujours été à deux jobs, trois jobs, c'est jusqu'à temps que je puisse gagner ma vie avec un seul métier. Puis même là, tu sais, des fois, je prends des contrats en communication, marketing, puis j'aime bien ça me change les idées. Mais j'ai tout le temps été dans des endroits, dans une famille où il y avait des travaillants. Puis ce qui me fait halluciner aujourd'hui, M. Baillargeon, c'est de voir des gens qui se lancent en politique qui ne terminent pas leur mandat. Quand on prend un engagement de 4 ans et qu'on se dit « moi, je vais me présenter comme député dans cette circonscription-là puis je vais vous représenter pendant 4 ans », à mes yeux, à moi, je trouve ça inacceptable que ces gens-là quittent leur mandat. Mais il y a des gens autour de moi qui sont beaucoup plus jeunes qui disent « ben ouais, mais si ça ne tentait plus d'être député, il peut s'en aller quand il veut ». Mais un engagement, pour moi, ça veut encore dire quelque chose. Quand on s'engage pour le peuple, on s'engage pour un mandat de 4 ans. Et à moins qu'il y ait un problème de santé, que ce soit pour nous, pour des membres de notre famille, je ne suis pas capable de comprendre. Une Joëlle Boutin, je vais me permettre de la nommer, puis je comprendrai si vous ne voulez pas embarquer là-dedans, mais qui décide, elle, de se renégocier un emploi ailleurs pendant le temps qu'elle est députée, puis qu'elle démissionne en disant c'est pour des raisons personnelles, puis qu'on la voit par la suite dans son emploi 40 heures semaine plus à commenter dans les médias et tout ça. Moi, je trouve ça inacceptable parce que ça l'a occasionné une partielle qui a coûté entre 600 000 puis 700 000 aux contribuables à qui elle a promis qu'elle allait être là pendant 4 ans. Puis j'ai des collègues de travail qui ont dit « Ouais, mais si ça ne tentait plus, elle a le droit de partir. » J'ai l'impression que ça a changé beaucoup les générations en politique. Puis les engagements, ça vaut comme plus rien.
Moi, je pense que c'est la politique qui a perdu sa notoriété. À l'époque là, de Parizeau, René Lévesque, Lucien Bouchard, peu importe, quand vous vous présentez en politique, c'était bien vu. Tu sais, c'était glorifié d'une certaine manière. Les gens disaient « Ah, wow! » Tu sais. Là, maintenant, un politicien, là, tu sais, c'est quoi, là? Tu sais, les gens, est-ce que les gens, vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens ne respectent pas les politiciens. Puis il y en a qui font une bonne job, là, OK? Ouais,
mais est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion entre les politiciens puis ceux qui
ont voté? Moi, je pense que les politiciens... honnêtement, là, j'en conseille des fois, là, OK?
Je le sais, c'est pour ça que je vous le dis je ne sais pas si vous pouvez m'en parler.
J'en conseille, mais ce que je veux dire, j'ai développé des amis. Peu importe les partis politiques, c'est pas important pour moi, là, j'ai un réseau d'amis là-dedans. Puis des fois, on échange comme ça, là. Je ne suis pas nécessairement payé là, pour ça, là, tu sais. Mais l'idée, OK, c'est que moi, je trouve qu'ils ont du courage. Parce que quand je regarde leur horaire, là, ceux qui ont des familles, des jeunes, avec des jeunes enfants, franchement, là, tu sais, ils sont très courageux.
Mais pour les ministres, je suis d'accord avec vous.
Parce que quand vous avez une famille, là, des enfants, là, vous voulez les protéger.
Toujours.
Hein? Puis quand vous voyez des gens qui vous menacent, là, OK, moi, ça m'est déjà arrivé, des gens qui m'ont menacé. Là, ils ont dit, si je sais où tu restes, là, tu vas voir, tu m'as donné une volée. Là, pourquoi ils font ça?
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, c'est un défouloir.
Est-ce que c'est la profession qui a perdu son lustre? Puis est-ce que les politiciens sont responsables de ça un peu?
Bien, c'est-à-dire oui, parce que c'est que la politique évolue très rapidement. OK? Ça demande beaucoup de souplesse en termes de s'adapter au changement. OK? Parce que là, écoutez, avec l'intelligence artificielle, là, vous voyez, ça arrive. Là, qui c'est qui a été formé pour faire face à ça? Personne. Non. OK? Alors, tout évolue. La technologie, toutes les relations humaines depuis la pandémie, c'est plus pareil. Là, OK? Donc, est-ce que les gens sont toujours sur leur cellulaire ou leur tablette? Est-ce qu'ils communiquent aussi bien qu'avant? T'sais? Alors, donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que les politiciens sont obligés pour communiquer avec la population, souvent faire des clips de 30 secondes pour passer leur message ou faire des podcasts, justement, puis dire, bien, regardez, là, je suis rendu là. Aujourd'hui, j'inaugure ça, mais tu sais, c'est pas comme autrefois, c'est sûr. T'sais? Alors là, il y a un peu... Les gens pensent toujours que les politiciens jouent une game, OK? Jouent une façade, alors que c'est des êtres humains. C'est sûr, comme je dirais, les politiciens, c'est comme des artistes. Ils veulent être aimés, OK? Puis ils vont tout faire pour être aimés, parce que c'est sûr, ils veulent être... Leur récompense, c'est d'être élus et réélus, OK? Ou d'avoir des gens qui les félicitent pour leur bon travail, leur disponibilité, etc. Mais comme je vous l'ai dit, la politique évolue tellement vite aujourd'hui. Puis est-ce que les gens qui se présentent en politique sont vraiment formés? Est-ce qu'on forme les politiciens? Moi, je ne vois pas vraiment de formation pour être politicien.
Oui. Ah, là-dessus, vous avez
alors, ça prend un bagage, là, aussi.
Je parlais avec le maire de Québec il y a de ça quelques temps. En fait, ça fait plusieurs mois que je lui ai parlé. Puis j'avais dit, qu'est-ce que vous avez ressenti quand tout le monde a quitté votre bureau la première fois puis vous êtes ramassé tout seul dans le bureau du maire? Ben, il a dit, écoute, c'est une crainte, là. Je veux dire, on prétend être capable d'accéder à la mairie, mais une fois que les portes sont fermées puis qu'on a toutes les piles de documents, on se rend compte qu'on est le maire, mais qu'on a besoin d'aide pour être capable d'apprendre c'est quoi le métier de maire. Ça n'existe pas, ça, cette formule-là où quelqu'un va t'accompagner pendant 2 ans, mettons, ton mandat, pour te dire voici ce que tu dois faire, voici ce que tu peux apprendre. C'est vraiment... tu dois y aller à tâtons, tu dois demander de l'aide. C'est assez particulier. Moi, je pensais qu'honnêtement, quand on devenait maire, quand on devenait député, il y avait un accompagnement pendant plusieurs mois, mais ça semble pas l'être. Puis pour les ministres, on me dit à l'Assemblée nationale que c'est un peu mieux l'accompagnement. Mais pour le député ordinaire, il doit apprendre un peu sur le tas. Moi, j'ai l'impression, puis on va faire une pause dans les prochaines minutes, M. Baillargeon. Moi, j'ai l'impression que les politiciens se sont éloignés de ce que veut la majorité des gens. Puis c'est peut-être ça qui a fait une déconnexion, parce qu'on se rend compte quand on regarde les sondages que les gens veulent X, mais le politicien, lui, pense que c'est mieux Y et veut faire en sorte qu'Y passe avant que X passe. Puis les gens disent, attendez un peu, c'est nous, vos patrons, vous êtes nos employés. Puis c'est comme si eux comprenaient l'inverse. Un politicien, à mes yeux, c'est au service du peuple. C'est pas le peuple qui est au service du politicien. Et quand les politiciens craignent le peuple, les politiciens vont toujours se dépasser. Mais si les politiciens ne craignent pas le peuple, ils ont le champ libre. Carrément. Puis c'est ça qui arrive dans les dernières décennies au Québec. Moi, j'aurais aimé être là pour observer. Moi, je vais vous parler de Camille Samson. Je vous l'ai dit l'autre jour, j'ai fait une confidence. Sur YouTube, il y a encore quelques-unes de ses allocutions. Et cet homme-là est incroyable pour parler au monde. Il parlait au vrai monde. J'aurais aimé être capable, comme vous, d'être à côté de ces politiciens-là d'antan. Un Parizeau, un René Lévesque. J'en ai nommé un tantôt que je trouvais franchement intéressant aussi, qui est Lucien Bouchard. J'aurais aimé les voir évoluer, c'était des grands hommes. Margaret Thatcher, qui était la femme, tu sais, à la main de fer, la femme de fer, je veux dire, elle a réalisé de grandes choses. J'ai plus l'impression que ces politiciens-là existent aujourd'hui.
C'est sûr que là, la question que vous posez est importante, c'est-à-dire, est-ce que les gens qui ont des capacités, OK, de communication, du talent, OK, des compétences, ils regardent comment ça se passe, la joute politique, puis je pense qu'ils ont peur d'y aller en politique, en général. Tu sais, parce qu'il y en a des gens intelligents. Tu sais, moi, j'en connais beaucoup, là, puis on me demande souvent, des gens d'affaires, qui tu verrais, justement, à la mairie de Québec? Qui tu verrais s'il y a un remaniement ministériel, etc., peu importe. Là. Et là, tu sais, là, je dis, quand je sors un nom, là, je dis, ouais, je suis pas sûr qu'il va y aller, puis pour toutes sortes de raisons. Puis... Donc, tout le monde, je pense, hésite maintenant à cause de l'insécurité qu'il y a là, en termes de prestige, mais pas juste le prestige, l'insécurité pour la famille. Les gens sont trop agressifs envers les politiciens. Je suis d'accord avec votre constat de dire que les politiciens n'écoutent pas toujours le peuple, mais on les élit quand même, OK? Donc, moi, je crois à la démocratie. Remarquez que pas un politicien qui a été élu avec une majorité, là, c'est rare. Moi, j'ai toujours prôné qu'on ait un système politique à deux tours, OK? Donc, tu as un premier tour, tous les candidats sont là. Si tu as 50 % dans ton comté, tu es élu au premier tour. Sinon, il en reste 5-2 à la fin. Vous me suivez? Donc, tu as un deuxième tour 2 semaines plus tard. Là, à ce moment-là, tu es sûr qu'il va être élu avec 51 % OK? Parce qu'on va avoir éliminé les autres.
Ah, je comprends.
Donc, c'est ça que ça prendrait. Parce qu'actuellement, là, les députés sont souvent élus avec 30, 32 % des voix dans leur comté. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, il a été élu avec 32 % des voix.
Est-ce 32 bon %.
Ouais. Ça veut dire que 68 % des gens ont voté contre lui, puis il est premier ministre. Puis ça fait 8 ans. Vous comprenez? Puis même M. Legault, il a été élu avec 41 %. Ça veut dire qu'il y a 60 % du monde qui ont voté contre. Vous comprenez? Donc, si on faisait un système à deux tours, on éliminerait justement tout. Parce qu'il y a un morcellement, là aussi.
Ouais.
Parce que tout le monde veut avoir sa niche politique, là, conservateur, de droite, de gauche, ou peu importe. Puis là, bien, à un moment donné, quand c'est morcelé, c'est ça qui arrive. C'est qu'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'unanimité. Mais là, notre système politique doit être réformé, à mon avis, faire un système à deux tours. Puis le premier ministre ne devrait pas être élu par son parti, devrait être élu comme un président au suffrage universel.
OK. Gardez votre idée parce que c'est avec ça qu'on revient après la pause. Je trouve ça franchement intéressant. Je rappelle aux auditeurs qu'on est encore quelques minutes avec Jean Baillargeon, qui est expert conseil en communication et développement stratégique. Il a travaillé longtemps en politique. Une bonne expérience. On va continuer de parler de ça tout de suite après la pause. On revient tout de suite.
Soirée. Marceau, le soir.
Pendant la pause, on jasait avec M. Baillargeon qui dit « Tabarouette, ça passe vite, cette émission-là. » Bien, c'est sûr, on parle de choses qu'on aime bien, la politique, les communications. Vous êtes expert conseil en communication, Jean Baillargeon, expert conseil en communication et développement stratégique. Faites-vous partie, là, ça fait drôle à dire comme question, là, mais faites-vous partie de la famille Baillargeon, les hommes forts et tout?
Non.
Ça? Non? Parce que j'aurais été pratiquement capable de faire une game de tir au poignet avec vous.
Non,
parce
que cette main, moi.
C'est, les Baillargeon, ils étaient considérés comme des hommes forts.
Oui, oui, les Baillargeon de la Beauce. D'ailleurs, j'avais déjà participé à une réunion de Baillargeon à l'île d'Orléans. Là, puis,
mais il vient de là, le premier Baillargeon.
Oui, c'est ça. Le pas le fondateur, mais le...
L'ancêtre,
effectivement, vient de l'île d'Orléans.
Puis là, êtes-vous capable de lever des poids une fois de temps en temps comme les Baillargeon?
Non, pas vraiment développer ça, là. Disons que j'ai développé plus la course, là.
Ouais.
Alors, quand j'étais jeune, j'ai appris à courir, oui.
Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est que vous avez parlé d'une façon d'aller en élection qui serait peut-être différente de celle qu'on a là actuellement. Il nous reste encore quelques minutes, là, un genre de 5 minutes ensemble, M. Baillargeon. C'est-à-dire que le chef, exemple, de la coalition Avenir Québec, qui est devenu premier ministre du Québec, devrait être élu par le peuple et non par son propre parti. Je trouve ça franchement intelligent.
Ben oui. Il aurait une légitimité. Les gens ne pourraient pas dire « t'es pas représentatif ». C'est sûr qu'à la fin, il resterait 2 candidats, OK? Donc, mettons, si on fait 2 tours, à moins qu'au premier tour, il y ait 50 % du vote, là,
ouais.
C'est possible, 51 % du vote. Mais là, à partir de ce moment-là, c'est pas contestable. Il est élu, OK? Donc, il y a du monde qui le soutient. Là, quand tu es élu par 40... Bien, lui, il est élu dans son comté, premièrement, là, OK, le premier ministre. Bon, déjà là, ça fait bizarre, OK? Et il est élu avec 41 % du vote. Donc, il n'y a pas majorité.
Mm-hmm.
Alors, c'est ça, là, il y a un décalage. Si on veut être vraiment représentatif, Et même chose pour les députés. Alors, les députés, ils sont élus avec... Des fois, il y a une division du vote. Puis regardez les prochaines élections fédérales, là, puis même la mairie de Québec, le maire a passé serré, là.
Ben,
850
oui.
voix, là, tu sais, bon, c'était serré. Puis il y avait une division du vote, là, aussi. Fait que vous voyez un peu, c'est toujours la même chose. Là,
est-ce que les partis politiques, ça fait assez longtemps que vous trempez là-dedans, est-ce que les équipes, qu'on soit rouge, bleu, vert, c'est-tu important tant que ça? Est-ce qu'on oui. pourrait espérer un jour un Parlement où il y a 125 députés qui peuvent avoir une voix plutôt que quatre voix sur 125 députés? Parce que, tu sais, je parle régulièrement avec Maître Marc Bellemare, puis Maître Bellemare voulait se lancer en politique pour changer les choses. Il voulait modifier le fameux « no fault ». Et on lui a dit, ben écoute, lance-toi en politique, puis on va te permettre de modifier ton « no fault ». Il est devenu ministre de la Justice, puis la première chose qu'on lui a dit, c'est hey, « Marc, tu t'es lancé en politique pour le « no fault », finalement, ça, c'est pas vers là que le parti veut aller. » Donc, quelque chose qui aurait été très intelligent de faire, c'est-à-dire empêcher un gars qui est complètement sous au volant de bénéficier de montants parce que le gars s'est blessé ou il est paralysé à vie, de l'empêcher d'avoir accès à la caisse de la SAAQ. Je trouvais ça intelligent, moi, puis peut-être plus donner de l'aide à la victime de cet homme-là. Mais Maître Bellemare n'a pas réussi à faire passer ça parce que la couleur du parti ne voulait pas s'en aller là-dedans. Parce que Jean Charest lui a dit « Non, M. Bellemare, ça ne sera pas ça. Puis reste 4 ans avec nous autres quand même. » Il a décidé de sacrer son camp, des bonnes valeurs fondamentales. Mais pourquoi le parti politique est si important que ça?
Ben, en fait, moi, je pense, sauf exceptionnellement, là, dans un vote de comté, là, OK, quelqu'un qui est bien connu, là, OK, qui est comme M. Bellemare, par exemple, là, OK, qui est une vedette, je pense qu'il avait été à la radio avant d'être en politique, en tout cas, je me souviens
plus. Bellemare, ben oui, ben,
peut-être après.
Par ses dossiers, il faisait de la radio, effectivement.
Ouais, c'est ça. Donc, il était connu, mettons, c'est une vedette. Mais ça aurait pu jouer dans son comté entre 5 et 10 du vote maximum. Le reste, c'est le parti, OK. C'est vraiment le parti. Quand on parle de vague, là, OK? Regardez Jack Layton.
Jack Layton, la vague orange.
Alors, la vague orange, il y en avait qui n'étaient même pas présents, puis ils ont été élus.
Il était sur son lit de mort. Il y a une madame qui avait étudié en littérature russe dans le secteur de Sainte-Foy, qui avait été porter son CV pour être bénévole. Puis on lui a dit, ben regarde ton CV, tu pourrais te prêter porter candidate. Puis elle a dit, ben oui, si vous avez personne, mettez-moi. Puis elle avait remporté une job, 160 000 par année, je pense, à Ottawa. Merci, bonsoir. Finalement, elle a sacré son camp, là. Mais elle a quand même eu une job alors qu'elle
était bénévole. Non, mais c'est ça, la vague, vous voyez, c'est le parti, OK? Parce qu'est-ce qu'on voit dans les médias? C'est le chef du parti. C'est le chef, en fait, là, ouais. Je dis le parti, mais dans le fond, c'est le chef. Puis c'est important, parce que, tu sais, les gens, là, Il vote sur quoi, là? Combien de personnes regardent les programmes des partis politiques? Pas beaucoup. Il se fie sur chef et dit, ben lui, je l'aime. Tu sais, je vais voter. Il a l'air franc, il a l'air cool ou peu importe. Puis il y en a qui disent, ah, je suis tanné, comme par exemple Trudeau, là. Les gens ne se poseront pas de questions. Ils vont dire, ben, ça fait assez longtemps qu'il est là. Merci, bonjour. Tu sais? Alors, tu sais, c'est ça, là. Même s'il a fait des belles... Même si, mettons, Trudeau, là, il fait plein de programmes, plein de dépenses, l'assurance dentaire, l'assurance médicaments, peu importe, c'est provincial ou fédéral. Mettons que c'est des bonnes politiques.
Ouais.
Les gens ne voteront pas pour ça.
Ils sont juste plus capables. Mais je comprends, mais c'est juste que le parti semble extrêmement important, les idées du parti. Puis ça, je le comprends, mais on a tellement avantage à les faire travailler les 125 à l'Assemblée nationale. On a la chance d'avoir 125 cerveaux, puis on se rend compte que ces 125 cerveaux-là sont obligés de se plier au désir de 4-5 personnes. C'est fâchant, là, pour
mais
un électeur.
En plus, imaginez, là, dans ces cerveaux-là, il y en a qui veulent être ministres, puis il y en a qui ne le sont pas,
ouais.
OK? Puis ils se demandent pourquoi, bien, c'est une question, bon, femme, homme, région, etc., il y a toutes sortes de considérations, puis il y en a qui disent, bien, moi, je serais plus compétent que... elle ou lui, là, tu sais. Fait qu'il y a de la rivalité à l'intérieur des partis. Imaginez.
Il y a une députée, moi, que j'ai adorée, puis elle a réalisé une grande chose, c'est Véronique Yvon, qui a réussi à rassembler toutes les autres partis parce qu'elle avait une cause, c'était instaurer l'aide médicale à Montréal. Tu sais, puis qu'on soit pour ou contre, regardez, c'est de vos affaires, moi, je juge pas, mais elle avait une idée. Elle a réussi à rassembler tout le monde, puis elle l'a fait passer, son idée. Moi, j'avais trouvé ça formidable, mais des Véronique Yvon, il n'y en a pas 50 à l'Assemblée nationale. Il manque de femmes comme ça. Il manque d'êtres humains comme ça qui sont capables de faire passer les idées indépendamment des partis.
Et en plus, l'aide médicale à mourir, vous savez qu'on est les plus avancés au monde là-dedans.
Alors, on serait les pionniers.
Non, mais en termes de nombre, en proportion de la population, il y en a eu 7 000, je crois, l'année passée.
Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle.
Puis, c'est-à-dire que la différence au Québec, il faut se le dire, là, je ne conteste pas ce que vous avez dit sur Mme Yvon, c'est que la religion n'est plus une emprise sur nous. OK? Allez au Canada anglais, allez aux États-Unis, vous allez voir, même en Europe, des fois, la religion est encore très importante, OK? Donc, eux autres, évidemment, les différentes religions s'opposent à ça, là, pour toutes sortes de raisons. Là, c'est ce qui les regarde. Mais nous, au Québec, on s'est débarrassé de la religion, OK? Ça, c'est clair et net, là. Il y a eu une... C'est la révolution féministe, il ne faut pas se le cacher. L'enjeu, c'est l'égalité homme-femme. La plupart des religions ne reconnaissent pas ça, au départ. Ça, c'est l'homme... qui est dominant sur la femme en général, c'est ça. Alors, donc, ici, on s'est débarrassé de ça, et ce qui fait que on est les plus avancés, même au Canada anglais, ils hésitent à adopter. On a demandé qu'ils mettent pas ça, qu'ils enlèvent l'enjeu du code criminel là, au niveau de l'Alzheimer, là, ouais. OK? Puis là, on attend ça. On veut même l'ouvrir au cas d'Alzheimer léger, là, qui commence pour dire qu'ils pourraient signer, eux autres, l'aide médicale à mourir. Donc, il y a cette question-là fondamentale. On est très humaniste aussi. Donc, ce qui fait que, pour nous autres, les dogmes religieux, OK, ou même les dogmes, je dirais même politiques, regardez, l'extrême droite est en montée partout dans le monde, puis au Québec, il y a-t-il un parti d'extrême droite?
Il y a des partis un peu cachés, mais effectivement,
on ne voit pas ça là, ici.
Puis dans les médias, ça ne passerait pas, anyway.
Bien, c'est ça, mais ça fonctionne dans le reste du Canada. Ouais, là.
Mais l'extrême-gauche fonctionne dans les médias, là.
Oui, bien, là, ça, c'est une autre affaire.
L'extrême-droite, moi, ça fait mon affaire qu'elle soit pas là, mais je laisserai l'extrême-gauche à la même place que l'extrême-droite.
Oui, 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 vous êtes d'accord.
Monsieur Bayargeon, faut terminer l'émission. Il va falloir, lors de votre prochain passage sur les ondes de boulevard, se limiter à 2-3 sujets, pas plus.
Oui,
je pense qu'on aime trop jaser. On est des
placotés. C'est ça, mais c'est vous qui m'ouvrez la porte, là. Vous voulez que je me prononce sur tout. Alors,
ben oui.
On
se prononce sur tout.
Il
n'y
a pas de problème, j'adore ça.
On est des placoteux, puis peut-être qu'un jour, on ouvrira les lignes pour jaser avec les auditeurs de différents sujets, si ça vous tente.
Oui.
Moi, j'aime ça, des gens placoteux. Fait que c'est clair et net que je vais vous réinviter. Jean Bayargeon, expert conseil en communication et développement stratégique. Pour des gens qui voudraient en savoir plus sur votre entreprise, peuvent faire quoi? Parce que là, vous faites des communications d'urgence, vous aidez des entreprises à sortir du trouble, à se faire des plans de communication pour être sûr certain que ça fonctionne bien.
Bien, ils vont sur Google, tapent Jean Bayargeon, expert conseil, puis ils vont voir, je suis sur LinkedIn, peu importe. Là.
On peut vous lire aussi dans les médias.
Oui, ouais, moi, j'écris mes opinions, des opinions presque quotidiennement, OK, sur les LinkedIn, Facebook, etc. Et j'écris de temps en temps dans les... Je suis publié dans certains médias écrits aussi, là, mon opinion aussi.
Fait que c'est un plaisir. Pour ce qui est des auditeurs, ben, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Et demain, ben, on se rejoint dans Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye-bye.
Merci beaucoup. Marceau le